Bonjour, vous êtes bien installé? Prenez votre temps, c'est votre moment. Le calme vous entoure, votre respiration s'apaise, vous êtes prêt. Vous saisissez ce livre qui n'attend que vous. Au creux de vos mains, il se réchauffe, se réveille et commence doucement à pénétrer votre esprit. Le livre en vie, c'est l'occasion de partager avec vous mes expériences singulières, mes rencontres avec ces livres dont on ressort toujours un peu plus vivant, quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Aujourd'hui, « Tout s'est bien passé » d'Emmanuel Bernheim, paru en 2013 chez Gallimard. « Papa m'a demandé de l'aider à en finir. » Je me répète cette phrase. Elle sonne bizarrement. Qu'est-ce qui ne colle pas? Papa et en finir? Avec « Tout s'est bien passé », Emmanuel Bernheim livre le récit haletant et bouleversant d'une impensable aventure. Emmanuel Bernheim est une romancière, essayiste et scénariste française, née le 13 décembre 1955 à Boulogne-Billancourt et décédée le 10 mai 2017 à Paris. Prix Médicis 1993, elle a laissé derrière elle une œuvre sensible, marquée par des allers-retours entre littérature et cinéma. Emmanuel Bernheim n'a publié que 6 livres, mais elle a su imposer sa voix, un style précis, une lucidité sur les rapports entre les hommes et les femmes, avec les obsessions qui trop souvent parasitent les histoires d'amour. Elle se décrivait elle-même en quelques phrases lapidaires et précisait « Elle écrit court !» En effet, court et peu, mais toujours juste. Après 2002, elle a surtout travaillé pour le cinéma avant de revenir au livre en 2013 avec un récit « Tout s'est bien passé » qui a obtenu le prix d'électrice de Elle. Elle y raconte la fin de vie de son père qui a demandé à ses filles de l'aider à aller en Suisse pour mourir. C'est un livre bouleversant qui n'est ni un plaidoyer pour l'euthanasie, ni une condamnation. Seulement la preuve qu'on ne peut régler la question en répondant à un sondage et que le désir d'en finir engage bien d'autres choses et ne concerne pas seulement la personne qui prend cette décision. J'arrive ! Je referme mon portable. Vite, je m'habille, j'attrape mon sac. J'appelle l'ascenseur. Loin, sans doute au rez-de-chaussée. Les battants métalliques grincent mollement. Je descends à pied. Un étage, un autre. Je m'arrête net. Ça ne va pas. Le dessin du tapis est tout brouillé. Je ne distingue plus les marches. Rien qu'une longue bande rouge ininterrompue. Je vais tomber. Je me cramponne à la rampe. Autour de moi, tout est flou. J'ai oublié mes verres de contact. Je remonte. Lentille droite, mon doigt tremble. Lentille gauche, je cligne des yeux. Ça y est, je vois. L'ascenseur est là. J'appuie plusieurs fois sur le bouton rez-de-chaussée. Allez, allez! Je traverse la rue sans attendre le feu rouge. Je cours vers l'avenue. Il y a la queue à la station de taxi. Même avec un changement, j'irai plus vite en métro. Passe Navigo, digne, tourniquet et portillon. Je dévale l'escalier. L'horloge lumineuse indique 4 minutes d'attente. 4 minutes. Je vais arriver trop tard, j'en suis sûre. Il faut gagner du temps. Le couloir des correspondances se trouvera-t-il en tête ou en queue de train? J'avance sur le quai, je m'arrête, je reviens sur mes pas. Impossible de me souvenir. Pourtant, je connais cette ligne par cœur. L'avant, l'arrière, la tête me tourne, je m'assieds. On se calme, on respire. Une inspiration profonde. L'expiration maintenant. La plus longue possible. Encore, ça va mieux. Je vérifie mon portable, il est chargé et 3 barres de signal, il capte. Pourquoi Pascal ne me rappelle-t-elle pas? Ça y est, je me souviens, le couloir des correspondances sera en tête de train. Debout, je me place au bord du quai à la hauteur du premier wagon. À travers mes semelles, je sens, presque aussi nettement que si j'étais pieds nus, les protubérances rondes et dures de la bande de sécurité destinée aux aveugles. Si ma sœur ne me rappelle pas, c'est probablement qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Notre père aura eu un coup de fatigue, une grosse chute de tension, rien de plus. Sur le panneau, le 01 se transforme en 00 clignotant, le métro arrive. Je m'assieds à côté d'un homme immense. Signal sonore, la fermeture des portes s'enclenche. Mon voisin entreprend aussitôt de déplier un grand plan de Paris. Il me demande, en anglais, de lui montrer où nous nous trouvons. Le papier glacé, épais et brillant, s'étale sur mon genou. Je pose mon doigt sur le tracé de notre ligne. Tel un long spaghetti rose, elle traverse la carte, de bas en haut. d'un tout petit cimetière à un grand dont les minuscules croix ressemblent à du pied de poule. Thank you. Le métro a pris de la vitesse. Je ferme les yeux. J'aurais dû m'asseoir dans le sens de la marche. La rame tangue, me ballotte. Quelque chose se tord dans mon estomac. J'ai 7 ou 8 ans, je suis assise à l'arrière de la voiture de mon père. Toute fière qu'il m'ait demandé de le guider, j'essaie pour la première fois de déchiffrer une carte. Je suis petite, je ne pèse pas lourd, et la banquette de la déesse est si souple, si élastique, que j'ai beau me cramponner à la poignée de la portière, je rebondis comme sur un trampoline. Jaune, rouge, blanche, les routes se confondent. Alors, à gauche ou à droite ? Je n'en sais rien. Mon père s'impatiente. Il conduit par à-coups. J'ai mal au cœur. Il faut qu'il arrête la voiture. Vite ! Il freine brutalement, se retourne et m'arrache la carte des mains. Pendant que je vomis sur le bas-côté, je l'entends chantonner. Un léger grattement me fait ouvrir les yeux. Le bord de la carte, l'ouest parisien, frotte contre ma cuisse. J'observe l'étendue du bois de Boulogne et il me semble soudain que cette grande tache verte et luisante avec ses lacs bleus comme des yeux est vivante et qu'elle respire au même rythme que moi. Je me lève, pardon, et j'enjambe Paris. La salive afflue dans ma bouche. Je plaque ma paume contre mes lèvres. Il faut que je sorte. Je descendrai à la prochaine station et je prendrai un taxi et s'il n'y en a pas, je continuerai à pied. Mais il faut que je sorte, vite. Je me place devant les portières si proches de la vitre qu'un halo de buée presque opaque se forme à la hauteur de ma bouche. Les freins gémissent, le tunnel est moins sombre, la station approche. La main sur le loquet, je serai la première à descendre. Un brusque chaos et paf ! Mon nez heurte la vitre. Aïe ! Je me retiens à la barre verticale de la portière et m'assieds sur le strapontin. Narine, cartilage, os, je palpe mon nez. Il est douloureux, mais sûrement pas cassé. Je me laisse aller contre la paroi fraîche du wagon. Le métro s'est arrêté. Des voyageurs descendent, d'autres montent. Je ne bouge pas. Mon mal au cœur a disparu. Nous repartons. Cette fois, je suis dans le sens de la marche. Le roulis est doux. Je sors mon portable, plus que 2 barres de signal, tandis que nous nous enfonçons dans le tunnel. S'il s'était passé quoi que ce soit, Pascal m'aurait appelé. Je fixe un instant les traits minuscules, presque des points, et l'écran se met en veille. Noir. Le livre en vie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Yanis de m'avoir encore une fois accompagnée. La semaine prochaine, le très beau roman de Chima Manda Ngozi Adichie, L'autre moitié du soleil. Très belle semaine et joyeuse lecture sur Esprit Occitanie. Et n'oubliez pas, le livre papier, c'est la liberté.